noces de Cana, Jean, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. Merci beaucoup, Charles.
Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ?
Et je vais inviter Charles,
n'est pas encore venu. »
Qui va nous faire.
Sa mère dit au serviteur :
«
Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-la et apportez-en l'organisateur de repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Merci beaucoup, Charles. Je vous invite à garder le texte ouvert devant vous. Et je vous invite à réfléchir. Combien de temps est-ce que nous passons dans notre vie à vouloir changer les choses ? Beaucoup, chaque seconde. Une grande partie de notre temps au travail, c'est de changer les choses. On veut améliorer un service, on veut améliorer un produit, ou même on veut carrément produire quelque chose qui n'existait pas avant. On veut, par exemple, pour Jean, il voit le soleil et l'énergie solaire, il dit comment est-ce qu'on peut faire de l'électricité avec ça. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est des élections, un jour d'élection aujourd'hui en France. Et donc là aussi, on voit les autorités, les présidents, les députés qui cherchent à changer ce qui ne va pas dans la société. Et toute leur énergie, normalement en tout cas, ils doivent la consacrer à faire cela, changer. Dans la maison, on change la déco. Dans la famille, on essaye en tant que parent, d'amener le changement pour nos enfants vers l'âge adulte d'un enfant à un adulte responsable, et pour nous, en tant que chrétiens même, qui aiment le Seigneur, qui sert Dieu. Et on trouve ça difficile. Souvent, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Il y a toujours un checo qui va main, comme on dit chez moi. Donc il y a toujours un petit quelque chose qui rend les choses des fois compliquées. L'autre jour, en passant devant la vitrine du vendeur de journaux, j'ai vu juste sur la première page d'un magazine, une parole de Johnny, notre Johnny Hallyday national, qui à 73 ans lutte contre un cancer et qui repart en ce moment pour une tournée. Et donc c'était un peu surprenant, et puis il aurait dit « Je m'accroche, mais j'espère m'en sortir ». Il déploie de l'énergie pour changer, peut-être pour essayer d'éviter cette maladie, pour essayer de s'en sortir. Et on se rend compte que des fois, il y a des efforts qui sont désespérés. Notre passage aujourd'hui, il parle aussi de changement. Un changement radical, plus que ce que nous ne pourrons jamais produire. Un changement par une personne que nous continuons à découvrir dans cet évangile et qui, dans le premier chapitre, a déjà reçu les titres suivants. La parole de Dieu, la vie, la lumière des hommes, le Messie, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils de l'homme. Le changement dont il va être question ici, c'est comme un changement radical, comme si du jour au lendemain, la France redevenait une monarchie qui n'avait plus de parlement et de députés. C'est un changement de régime. C'est un peu un changement comme si la veille de votre mariage, justement, la veille, vous êtes un célibataire, vous pouvez prendre les décisions que vous voulez, tout seul, indépendamment de n'importe qui d'autre. Si vous voulez manger dans la casserole, vous pouvez le faire, personne ne vous regarde. Mais le lendemain, vous êtes marié, changement de régime, vous ne pouvez plus manger dans la casserole, vous sortez les assiettes, vous sortez tout. Parce que maintenant, vous êtes engagé avec quelqu'un. Maintenant, vous êtes marié, vous avez un conjoint, une conjointe. Alors, tout change. Ça, c'est le genre de changement dont le texte nous parle ce matin. Et on l'a déjà dit, et on le voit, vu que la personne qui va effectuer ce changement est une personne tellement spéciale, on peut s'attendre à quelque chose de radical. Voyez avec moi, au verset 11, c'est le verset un peu clé, c'est le verset qui révèle le sens de tout cet épisode, de cette petite histoire à Cana. Verset 11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. » Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cela correspond bien avec le but de tout l'évangile. Vous vous rappelez dans Jean au chapitre 20, l'apôtre Jean qui écrit, il nous dit pourquoi il est en train d'écrire, pourquoi il est en train de raconter cette histoire à Cana. Il dit « Tous ces signes, et ça c'est le premier, tous ces signes ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » En croyant, c'est-à-dire en croyant, en commençant à croire et en persévérant, en continuant à croire. Et donc, tout ce but-là, tout cet objectif de l'apôtre Jean, il commence ici, avec les noces à Cana. Et on voit un modèle de qu'est-ce que ça fait quand on voit la gloire de Jésus. Et qu'on croit. C'est ce que font les disciples dans ce passage. Comment est-ce que cela arrive ? Ben, c'est une histoire un peu qui paraît tout à fait banale dans un sens. C'est un mariage. Un mariage, il y en avait un hier à la mairie. On est passé à côté justement ensemble, en petit groupe, vous l'avez vu, pour ceux qui étaient à la journée de prière. Mais sauf que ce mariage, il y a un petit problème. Le marié et l'organisateur n'ont pas prévu suffisamment de vin pour les inviter. Et on est dans une culture de l'honneur, pas juste une culture d'être pragmatique et d'être bien organisé, mais une culture de l'honneur. Alors si on n'a pas donné ce qu'il faut pour les inviter, si on n'a pas pourvu à tous leurs besoins avec abondance pour que personne ne manque de rien, il y a une grosse, grosse gêne sociale en vue là pour l'organisateur du mariage et pour le marié lui-même. Parce qu'au final, c'est lui, l'époux, qui a donné cet argent-là et qui a prévu normalement tout ce qu'il fallait. On a failli vivre cela, notre propre mariage. Tout se passait bien. Pour l'essentiel, c'est que Nathalie a dit oui, bien sûr. Et moi aussi, j'ai dit oui. Et tout allait bien, c'était une belle journée. On était en train d'être en route vers la salle pour le repas du soir avec tous nos invités aussi. Et tout allait bien jusqu'à ce qu'on arrive. Parce qu'au moment où on arrive devant la salle qu'on avait louée pour l'occasion, et certains amis qui étaient partis en avance de nous pour justement permettre aux traiteurs de disposer tous les plats, etc., ils arrivent un peu gênés vers nous. Le traiteur avait demandé de mettre deux rangées de tables sur 7 mètres, donc voilà, 14 mètres de table pour disposer les plats. Et bien sûr, c'est les plats, mais il y a aussi du décor. Des feuilles d'ananas, il y a des miroirs, et c'est censé être impressionnant, et on s'imagine qu'il y a énormément de nourriture. Mais ce qui s'était passé, c'est que dans l'après-midi, il y avait juste une simple voiture qui était venue déposer des plats en arcopal, et le gars était reparti aussitôt, il avait tout laissé comme ça. Alors il nous annonce, écoute, c'est bizarre parce que on a essayé vraiment de disposer sur les 14 mètres, mais ça fait vraiment minable, quoi. Est-ce qu'il y aura assez de nourriture pour tout le monde? Alors vite, ni une ni deux, on est rentré, on a enlevé 7 mètres, on a laissé juste 7 mètres, on a essayé de disposer au mieux les plats. Et vraiment, pendant que tout le monde se servait, on se disait, est-ce qu'il y aura même assez? Parce que ça semblait, sans le décor, vraiment très peu. Ouf, je vous rassure, tout s'est bien passé, tout s'est bien fini. Aussi la soirée. Pour la petite anecdote, il y avait ce soir-là un match entre le RC Lens, c'est-à-dire mon coin, et l'équipe de Strasbourg, qui était à l'époque en Ligue 1, tous les deux. Et le même traiteur qui devait nous livrer était aussi le fournisseur officiel pour ce match-là. Et je pense qu'ils ont mis tous les moyens pour le match de foot, et nous, on a été laissés en plan. Est-ce que vous imaginez si ça était arrivé pour nous, pour peut-être vous-même, vous invitez des amis, il n'y a pas assez. le gros problème. Et on voit Jésus alors intervenir et accomplir, Jean nous dit, un signe. C'est le mot qu'il aime bien utiliser dans son évangile. Il pourrait utiliser d'autres mots, en grec, il y a d'autres mots, il pourrait utiliser par exemple le mot prodige. Il n'a pas utilisé le mot prodige. Il aurait pu utiliser le mot miracle. Ici, dans notre traduction qu'on a lue, ils utilisent signe miraculeux pour montrer quand même qu'il y a quelque chose d'assez spécial. Mais le mot, c'est signe. Bien sûr, c'est un miracle. Bien sûr, il y a une transformation. Mais c'est un miracle qui a un sens, n'est-ce pas? Quand vous regardez un signe, j'imagine nos amis hollandais qui nous visitent aujourd'hui, ils ont suivi les panneaux Cavaillon ou Lyon ou voilà pour faire la route jusqu'ici, ou s'ils sont venus en train ou en avion, je ne sais pas. Et voilà, ils ont dû suivre des signes. Et c'est pas parce qu'on est devant le signe qu'on est arrivé quelque part, mais on suit la direction que ça nous indique. Donc le miracle de Jésus, on doit le comprendre comme pas juste une manifestation de puissance, mais comme ayant un sens, une signification. Et on voit le premier des signes miraculeux que fit Jésus, c'est de manifester sa gloire. On découvre alors que le sens de ça, c'est de découvrir, de comprendre que Jésus est Dieu. Et quand on voit ça, quand on comprend ça, nous dit ce verset 11 toujours, c'est en vue de notre conversion pour un changement à l'intérieur de nous, pour qu'on arrête de vivre pour nous-mêmes et qu'on reconnaisse, voilà, il y a un Seigneur, pour que nous croyons qu'il est le Christ, le Messie. Alors, il y a un miracle qui a un sens, qui a un objectif en vue, notre conversion, mais pas que. Et quand on regarde le milieu du verset, on découvre que Jésus révèle sa gloire. Vous vous rappelez ces versets du chapitre 1, la gloire de la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. Si vous voulez juste vérifier que je ne dis pas n'importe quoi, vous pouvez lire avec moi. Chapitre 1, verset 14. La parole qui était au commencement, qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Et au verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Une grâce après une grâce, l'abondance de la grâce. Une grâce tellement supérieure qui vient et qui remplace une première grâce qui avait été accordée par la loi de Moïse. Et c'est intéressant, si on regarde bien le texte, de voir Dieu qui est non seulement à l'œuvre dans la création, comme on le voit dans le chapitre 1, mais maintenant qui est à l'œuvre pour sauver, qui est à l'œuvre pour la rédemption. Est-ce que vous avez remarqué au verset 1, où est-ce qu'on en est? Au verset 1, Jean nous dit qu'on est le troisième jour. Il y a trois jours qui se sont passés. Et si on fait la chronologie des événements de la fin à partir du verset 19, quand on découvre Jean-Baptiste, on voit cette arrivée de l'envoi de la délégation à Jérusalem. Et puis le lendemain, Jésus arrive et puis Jean dit, voilà l'agneau de Dieu qui sauve le péché du monde. Et puis le lendemain encore, il est là et Jésus passe de nouveau. Et puis Jean le Baptiste redit, voilà l'agneau de Dieu. Alors ça fait déjà trois jours, hein, vous comptez avec moi. Et puis les disciples suivent Jésus, ils passent toute une journée avec lui, quatrième jour. Et maintenant, on est trois jours après. Ça veut dire donc 4, 5, 6, 7, septième jour. Ah, vous vous rappelez qu'au commencement, Dieu crée le monde en sept jours. Et le septième jour, c'est pour le repos, c'est pour le sabbat. Alors voilà un petit indice encore que la parole, à partir de maintenant, avec ce premier signe, elle est à l'œuvre pour non plus la création, mais pour accorder le sabbat, pour accorder le vrai repos, pour que nous puissions contempler l'accomplissement des promesses, les promesses qui avaient été faites dans la loi de Moïse. La première grâce, Dieu qui dit, je ne vous ai pas oublié, je vais prendre soin de vous, mais qu'est-ce que vous aimez mieux entre les promesses et l'accomplissement des promesses? Bien sûr, vous aimez mieux l'accomplissement des promesses, n'est-ce pas? Ça, c'est la grâce qui est supérieure à la grâce de la promesse. Eh bien, ça y est, l'apôtre Jean est en train de nous dire, ça y est, ça arrive avec Jésus. La promesse, c'est un peuple nombreux, beaucoup de monde. Et on est ici dans une occasion d'un mariage. Il y a beaucoup de monde, peut-être plus même que ce que l'organisateur du repas et le marié avaient anticipé. Beaucoup de monde qui est là au repas. La promesse de Dieu, c'est d'être être dans le lieu choisi par Dieu. Et si vous vous rappelez le contexte, Jésus vient de dire juste avant cet épisode que lui, il est l'endroit où le ciel s'ouvre et où on peut voir les anges de Dieu monter et descendre et Dieu le Père tout en haut en train de servir le Fils de l'homme. Si on veut rencontrer Dieu, le lieu pour le faire, c'est d'être uni avec Jésus-Christ. Et la troisième partie de la promesse que Dieu a faite dans l'ancienne alliance et qui se réalise ici, c'est d'être au bénéfice des bénédictions de Dieu, dans une relation spéciale avec Dieu, c'est-à-dire pour nous, pécheurs, dans une relation restaurée, en étant pardonnés par Dieu, en étant accueillis par lui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus, une grâce plus abondante, une grâce qui remplace celle de l'ancien régime de la loi. L'ancienne alliance cède la place à une nouvelle alliance dans ce passage. La deuxième réflexion vers laquelle je voudrais vous attirer, c'est que l'action de Jésus, elle est libre. Elle n'est pas dictée par les circonstances ou par les hommes, même pas par une maman. Petit clin d'œil. La maman de Jésus est là et elle prend conscience du problème. Elle veut aider ses amis qui l'ont invitée. Et donc on voit au verset 3, « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et bien sûr, on comprend, il y a une demande derrière. Ben, « Est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose ?» Et Jésus lui répond, « Que me veux-tu, femme ?» Juste pour vous rassurer, il n'y a pas d'insulte ici, c'est très apaisé dans le langage. C'est un peu, pourquoi tu viens me demander ça? C'est pas moi qui suis le marié, c'est pas moi qui suis censé être l'organisateur du repas, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il dit cette phrase, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. Et on voit Marie qui comprend que ce n'est pas un non total, puisqu'elle va voir les serviteurs et elle leur dit, je ne sais pas, mais en tout cas, faites tout ce qu'il vous dira. S'il vous dit quelque chose, faites-le, simplement. Et on voit Jésus qui est en train d'agir souverainement. Vous avez lu avec moi l'épisode, il va y avoir une transformation de l'eau en vin. Il agit presque de façon cachée. Et même à la fin, l'organisateur du repas ne saura pas qui a fourni ce bon vin. Seuls ceux qui ont vu, ceux qui ont cherché à comprendre, les disciples, eux, commencent à voir la gloire de Jésus et à croire. Jésus dit « Son heure n'est pas venue. Il reste encore des choses à faire dans le travail de rédemption. » Là, c'est le commencement. Et ce que Jésus est en train d'indiquer, et ce qu'on peut voir dans le reste de l'évangile de Jean, quand on parle de l'heure de Jésus, ça parle en fait de la croix. Avançons encore un peu alors, pour comprendre de quelle heure Jésus est en train de parler. Et on voit Jésus qui, du coup, intervient, au verset 6 et 7, et on voit Jésus qui est en train de mettre sa puissance divine au service d'un but précis. Il veut rendre pur, n'est-ce pas? C'est ça le but de son miracle, de changer l'eau en vin. Il veut rendre pur. Et pour manifester cela, Jésus opère une transformation. Il change de l'eau en vin. Vous voyez, ça se produit par de simples paroles. Jésus leur dit, remplissez ces jarres. Puis une autre parole, puisez maintenant, leur dit-il. Et les serviteurs agissent sur la simple base d'une parole de Jésus. Il n'y a pas de geste, de rituel bizarre, juste une parole. Et voilà que l'eau s'est changée maintenant dans le meilleur des vins qu'on puisse imaginer. Jean nous dit que ces jarres qui étaient là étaient destinées au verset 6, aux purifications des Juifs, et contenaient chacune une centaine de litres. Les jarres qui se trouvaient là étaient destinées aux purifications des membres du peuple de Dieu. Des purifications rituelles. Je ne sais pas si récemment vous avez lu Lévitique. Est-ce que récemment vous avez lu Deutéronome ? On a un petit challenge à la maison et j'ai proposé à mes trois garçons de lire la Bible en entier. Le plus rapidement possible, il y a une petite récompense à la clé. Oui, je sais, c'est pas bien mettre des sortes de rançons comme ça peut-être. Mais je veux juste les motiver, je veux juste qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de précieux, plus précieux même que la récompense, de connaître la parole de Dieu. Et on lit chaque livre, chaque chapitre, chaque verset. C'est ça le challenge. Alors chaque soir, depuis de nombreux mois maintenant, je lis un chapitre de la Bible avec Siméon. On a commencé au tout début, Genèse, Exode, Lévitique. Oh, Nombre. Oh là là, pas encore, ils vont se rebeller. Deutéronome. Oh là là. Et quand on a lu ensemble avec Siméon, on essaie de résumer un peu les choses. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Et après, on colorie une case avec le numéro du chapitre sur le plan de lecture. Voilà, ça c'est fait, on avance. On a terminé bientôt on a terminé le Pentateuque, avec quelques petites pauses pour respirer dans les psaumes. Et c'est juste terrible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça devait être la vie d'un Israélite pieux, d'une Israélite pieuse? Pour vous, mesdames, par exemple, c'était le moment des règles. Ah, impur. Il faut rien toucher, on ne peut pas participer aux célébrations dans le temple. Le mari, qui habite dans la même maison, il n'a pas le droit de toucher les habits de sa femme, il n'a pas le droit de toucher le lit de sa femme, sinon pour lui-même c'est pareil, impur, il doit sortir du camp, il doit se laver, prendre des bains, laver ses habits, avant de pouvoir revenir. Pardon pour cet exemple, mais c'est juste pour dire, c'est quotidiennement, c'était un casse-tête incroyable, il ne faut pas toucher un cadavre, c'est des gens qui étaient des agriculteurs, des éleveurs. D'accord? Donc il y avait des animaux qui décédaient, il y avait tout un tas de causes qui faisaient en sorte qu'on était régulièrement face à l'impureté. Et Dieu disait que lui, il est un Dieu saint qui n'aime pas l'impureté. Et si vous vous dites, mais nous, on n'est pas juifs, on n'est pas nés dans le peuple d'Israël. Sachez que la Bible, elle fait le parallèle entre la loi de Moïse et la loi qui est donnée à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, même perdus au fin fond de la jungle, la loi de la conscience, qui n'est pas un meilleur régime que la loi de Moïse, au contraire. Et surtout, ce n'est pas un régime qui est plus efficace pour sauver ou purifier. Ces deux régimes-là, la loi de Moïse et la loi de la conscience que Dieu a implantée dans le cœur de chacun, elles servent juste à nous montrer, oula, j'ai mal fait, oula, je suis impur, oula là. Je suis incapable de rester saint et le Dieu qui m'a créé en son image, lui, est pur et parfait. Et moi, je ne le suis pas. Voilà des régimes qui condamnent parce qu'ils ne font que mettre en avant notre incapacité à vivre pour celui qui nous a créés. Qui nous font voir que nous manquons le but dans tout ce que nous sommes et donc dans tout ce que nous faisons. Nous nous sommes détournés de Dieu, nous ne reflétons plus son caractère. L'image de Dieu en nous est brisée. Nous l'avons brisée en nous détournant de lui. Et maintenant, s'il reste des éclats de grâce, tout est déformé. Alors, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas, de lire ce passage ce matin, de voir Jésus venir accomplir un changement radical pour un but, rendre pur ce qui, avec le régime de l'ancienne alliance, ne pouvait jamais espérer cette pureté. Voyez, il fait remplir les jarres jusqu'à leur plus haut niveau. Une manière de dire, voilà, ce régime-là, c'est fini, accompli. Et c'est pas juste fini, accompli, et c'était tout ce qu'il y avait à savoir. Non, il y a une transformation. Maintenant, il y a un régime encore meilleur. La puissance de Jésus est motivée par l'amour de Dieu pour son épouse. Voyez, il y avait 6 jarres qui pouvaient contenir environ 100 litres chacune. Je n'ai pas pensé de faire ça. En bon français, normalement, vous avez mémorisé le format d'une bouteille de vin. 75 centilitres. Alors, vous avez ça en tête. Si vous avez un mariage où vous avez invité peut-être 150 personnes, ce qui est déjà pas mal, je crois, on dit qu'en général, il faut compter une demi-bouteille de vin par personne. Peut-être vous avez d'autres calculs. En moyenne, c'est plus ou moins ça. Alors, ça veut dire si vous avez 150 invités, vous devriez être pas mal avec 80 bouteilles de vin. Mais ici, à Cana, c'est, si vous voulez une image, ces 6 jarres de plus ou moins 100 litres, elles correspondent à 800 bouteilles de vin. Alors là, votre voiture, elle ne suffit plus. Il faut faire venir le camion, d'accord ? Les palettes de bouteilles de vin. Et on se dit, tiens, mais ça fait écho aussi à des passages que l'on trouve dans l'Écriture. Si vous avez la Bible ouverte devant vous, tout en gardant Jean 2, vous pouvez peut-être aller rapidement avec moi dans Genèse, au chapitre 49, au verset 10 et 11. D'abord, en lisant verset 11, Genèse 49, 11, c'est la bénédiction de Jacob pour un de ses fils, pour Judas. Et voilà ce qu'il dit au verset 11. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il y a tellement de vin, tellement abondance dans la récolte de raisins pour Judas qu'il peut carrément laver ses vêtements dans le vin. C'est comme si vous ouvriez le robinet tout à l'heure et au lieu d'avoir de l'eau, c'est du vin, du jus de raisin qui coule en abondance. Et si vous remontez juste le verset avant, cette promesse, cette bénédiction, elle est liée à ce qu'on lit dans le verset 10. Le sceptre, le bâton du commandement, ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, une personne mystérieuse à ce stade-là du récit, mais qu'on apprend à connaître, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie en d'autres termes, et que les peuples lui obéissent. Cette abondance de vin, cette abondance de jus de raisin, cette bénédiction en abondance, elle est liée à la promesse de la venue du Messie dans la parole. On pourrait lire encore d'autres passages dans Amos 9, vous pourrez lire à la maison si vous avez envie, versets 13 et 14. On voit Amos qui fait la description des vendanges au mois d'août. Il y a une récolte énorme. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est débordé. Il y a tellement de grains raisins à récolter. Les vignes sont pleines à craquer. Les grappes, les petits grains en eux-mêmes sont gonflés à blocs de jus. Au point qu'il y a des ruisseaux qui coulent le long des collines, dans les travées des vignes, parce que dans les récoltes, les grappes se brisent et le jus coule à flot. Et ces versets-là qui montrent, qui annoncent la bénédiction de Dieu qui est en train de venir, ils suivent aussi une promesse qui est liée aussi au Messie. Dieu dit qu'il va relever la hutte chancelante de David. Versets 11 et 12 d'Amos, chapitre 9. Dieu va relever la hutte chancelante de David. Donc le vin dans la Bible est associé au personnage glorieux du Messie, le fils de David, le lion de Juda. Nous n'avons plus besoin de cette eau pour nous purifier. Les rituels de purification sont caduques maintenant, parce que désormais nous avons Jésus. Il y a abondance et totalité de bénédiction avec Jésus. Remarquez encore une chose, la qualité du vin. L'organisateur du repas, au verset 9, il goûte l'eau changée en vin. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est un millésime, c'est d'où ça sort ? J'ai jamais goûté un vin aussi bon. Il dit au verset 10, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon après. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Beaucoup de personnes pensent que suivre Jésus, n'est-ce pas, c'est pas très jojo, c'est pas la joie. Mais non, le changement que Jésus vient opérer, c'est aussi puissant, c'est abondant, c'est total, et c'est aussi pour notre joie, pour la joie et le plaisir des hommes. Jésus intervient pour notre joie. Et là aussi, il y a des passages dans la Bible qui nous montrent cela. Psaume 104, au verset 15. Dieu donne le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Et c'est un psaume qui parle de la création, mais qui parle aussi de l'intervention de Dieu pour délivrer des pécheurs. Jésus accomplit ce signe aussi pour qu'on sache qu'il est venu pour notre joie, pour le plaisir des hommes, le plaisir retrouvé après que nous nous soyons éloignés de Dieu. Jésus est capable de donner une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et cette fête aurait pu très mal tourner. Manque de vin, la honte pour le marié, la honte pour la mariée, la honte pour l'organisateur du repas, pour toute la famille. Gêne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans le village. Mais Jésus est là. Et nous pouvons connaître une joie alors qu'il ne dépend pas des circonstances. Car lui est capable de changer, de transformer ces circonstances pour notre bien, pour notre bénédiction, pour notre joie. Nous pouvons trouver cela dans l'intimité avec Jésus. Nous pouvons déjà expérimenter cela. Et la promesse encore que nous voyons dans ce passage, c'est un écho pour un banquet, pour une fête qui est encore à venir, qui va terminer ce que Jésus commence à faire ici à Cana. Un grand repas de noces. Ésaïe nous en parle au chapitre 25, Ésaïe 25, verset 6. Sur cette montagne, la montagne de Sion, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Et quand il y a un voile, n'est-ce pas, quand il y a une couverture, c'est pour cacher les choses, c'est pour couvrir, n'est-ce pas? Mais vient l'heure, bientôt, où les choses vont être dévoilées. Et ça fait peut-être écho sur le temple, justement, sur le mont du temple. Bientôt, le voile va être déchiré en deux. Et plus que jamais, il sera possible de contempler la gloire de Dieu. Ce que nous lisons ici à Cana, c'est juste un petit aperçu. C'est le début du dévoilement de la gloire de Jésus. Et cette gloire-là, elle se poursuit jusque dans l'éternité. Il ne s'agit pas juste de laisser de côté l'eau des ablutions, mais de la remplacer par un vin qui coule à flot jusque dans l'éternité. Il ne s'agit pas juste de laisser tomber l'ancien régime pour un autre régime attristant, mais pour connaître la joie d'être dans la présence de Jésus, dans une qualité de relation admirable, dans la liberté de nous présenter devant Dieu, de jouir de son amitié et de ses bénédictions. Jésus est venu apporter l'espérance d'une relation restaurée, facilitée avec notre Créateur. Jésus, dans ce passage, est venu instaurer une ère nouvelle où il règne pour bénir son épouse, pour bénir l'Église, l'ensemble des rachetés. Parce que oui, finalement, on découvre dans toute cette histoire que le véritable époux, le véritable marié de l'histoire, c'est Jésus. Il pourvoit assez pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui le connaissent. Il pourvoit le meilleur pour ceux qui viennent à lui. Voyez la fidélité de Dieu quand on contemple les promesses de l'Ancien Testament et qu'on met ces promesses en rapport avec cet épisode ici à Cana. Nous découvrons la fidélité de Dieu à ses promesses. Et cette fidélité et total. L'engagement pris par Dieu bien des années auparavant vis-à-vis de son peuple n'a pas dévié d'un degré. Jésus est le Dieu souverain, venu pour faire la purification de son peuple, pour inaugurer un banquet final qui sera pleinement consommé dans le royaume de Dieu. Jésus est le marié qui vient prendre soin de son épouse, conformément à l'alliance qu'il a établie avec elle. Cette épouse, c'est nous aussi, si nous avons mis notre espérance, notre foi en Jésus. C'est nous ici qui sommes rassemblés ce matin à Cavaillon. On va continuer de lire l'évangile de Jean pour notre part ici dans l'église, mais si vous n'êtes plus avec nous, je vous encourage encore à continuer et à aller jusque à l'heure que Jésus mentionne, l'heure de la croix. Si en regardant cet épisode de la vie de Jésus, nous pouvons, comme les disciples, voir une manifestation de la gloire déjà de Jésus et croire en lui et persévérer à croire dans la fidélité de Jésus pour nous. Alors le moment où ça va être encore plus grand, c'est l'heure de la croix. Quand on contemple Christ, en particulier à la croix, ça a un effet de transformation en nous. Quand nous comprenons qui il est, ce qu'il est venu faire, son travail de salut, son travail de rédemption après son travail de création, alors nous sommes conduits devant la gloire et la majesté de la parole éternelle de Dieu. Et nous sommes invités à croire. Quelque part, dans ce passage, nous sommes obligés de contempler la gloire de Dieu. Peut-être nous ne l'avons pas vue. Nous n'étions pas à Cana il y a bien longtemps. Mais par le témoignage de Jean, nous pouvons nous aussi avoir un aperçu de cette gloire de Dieu. Si nous voyons cette gloire, est-ce que nous allons mettre notre foi en celui qui se manifeste de façon si puissante, si bienveillante, si glorieuse? Ce n'est que le premier signe, mais il nous amène déjà à comprendre que nous servons un Dieu fidèle. Quelle fête est-ce que vous désirez? La lumière artificielle d'une fête comme les autres, ce mariage, c'est le genre de célébration qu'on peut avoir dans cette vie ici. Il y a des fêtes régulièrement, peut-être cet été, il y aura des barbecues, il y aura des fêtes. Qu'est-ce que vous choisissez? La lumière artificielle d'une fête comme les autres, une fête ordinaire? Et vous savez comme moi que les fêtes que l'on peut expérimenter avec la joie, il n'y a pas de mal à faire des fêtes, d'accord? Faites des barbecues cet été, aucun souci. Mais vous savez comme moi que les barbecues ont une fin. On peut essayer de prolonger, on peut essayer de monter un peu la musique à un certain moment, on peut essayer d'amener d'autres bouteilles, mais à un moment, la fête doit s'arrêter. Les fêtes artificielles ne peuvent pas se prolonger. La honte plane sur les organisateurs des fêtes, des responsables des fêtes. Peut-être il n'y aura pas assez. On ne peut pas pourvoir à la joie infinie de ceux qu'on invite. Et bien que les projecteurs dans cette histoire ne sont pas braqués directement sur Jésus, lui, il travaille à une plus grande fête, une fête éternelle. Ses préparatifs sont bien maîtrisés. Son heure vient. Il n'y aura pas de déception. Il promet une fête sans fin, dans une vraie joie pour l'éternité. Alors on est devant un choix. Est-ce qu'on va s'attacher à ce qui est lumineux aujourd'hui, mais passager? Ou est-ce que nous allons chercher ce que Dieu fait parfois dans l'ombre, mais finalement qui manifeste sa gloire? Cela pour un bienfait éternel pour tous ceux qui alors se confient en lui. Vous êtes invités à une fête. Est-ce que vous allez répondre à cette invitation? Prions. Merci Seigneur pour cette portion de ton écriture inspiré par ton esprit pour nous conduire à Jésus-Christ, à le connaître, à commencer à voir sa gloire et mettre notre foi en lui. Seigneur, nous prions que le but pour lequel tu as poussé Jean à écrire atteigne son objectif, atteigne son but, justement. Nous prions que, en méditant encore sur cette parole, sur cet épisode, nos cœurs soient transformés, que nous nous attachions à Jésus qui est capable de changer nos cœurs, de purifier nos âmes et de nous promettre une fête éternelle sans fin. Les noces de l'agneau arrivent, Seigneur, nous le savons. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes confiants, attachés à toi jusqu'à ce jour-là. Merci pour l'abondance, pour la joie, Seigneur, que tu prépares pour chacun d'entre nous. Merci pour tous les éclats de cette grâce dont nous pouvons déjà goûter les effets dès cette vie-ci. Seigneur, soutiens notre foi, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.